Bonjour à tous, bonjour à chacun, chacune. Donc nous allons commencer aujourd'hui l'étude de l'épître aux Colossiens, qui est une lettre assez courte, mais qui est aussi assez encourageante, intrigante. Ça faisait partie des textes qui avaient été retenus l'an dernier, comme voilà, des textes qu'on n'avait pas encore étudiés, je crois, ici, à Anthony, et qui étaient parmi ceux qui étaient demandés par un grand nombre. Donc voilà, très heureux de commencer aujourd'hui cette étude. J'ai cherché à voilà, vous donner un sous-titre de ce qui nous attend. J'ai mis la suffisance de Christ, la maturité des croyants, pour essayer de résumer en deux, voilà, deux expressions ce qui nous attend dans l'épître aux Colossiens. Une autre manière de le résumer serait été de dire la tête en l'air. La tête en l'air parce que y a ce verset dans le troisième chapitre, pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Donc l'épître aux Colossiens, c'est un encouragement à se tourner vers Jésus, à tout attendre de Jésus et à mettre en œuvre notre vie sur terre, à mettre en route notre vie sur terre en fonction de ce que l'on reçoit du ciel, des choses qui sont en haut. Donc on va pouvoir lire ça ensemble cette année. Classiquement, je vais présenter l'introduction avec les grands, ce qui est attendu dans une introduction, c'est-à-dire une présentation de la lettre dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de texte on a? L'auteur, le contexte de cette épître aux Colossiens que vous connaissez certainement. Voilà. Donc, mais on va rappeler quelques grandes lignes sur le contexte d'écriture. La date de publication, enfin de publication, de rédaction, on va dire plutôt. Pardon, c'est une déformation. Éditeur, ville. Je vous passe l'impact factor, mais ça c'est autre chose. On dira quelques petites choses sur la construction aussi. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est une lettre courte. Donc évidemment, vous pouvez la lire facilement plusieurs fois. Si je dis trop de choses, après, qu'est-ce qu'on va dire pendant les mois qui viennent? Donc une introduction qui restera générale, et on verra qu'il y a beaucoup de choses en fait dans lesquelles on pourra rentrer à partir des différents thèmes que je vais étudier aujourd'hui, que je vais présenter aujourd'hui. L'épître aux Colossiens, je disais, c'est une lettre courte qui s'adresse à une église qui est jeune et qui découvre ce que c'est que la vie en Jésus-Christ. Et c'est un encouragement à découvrir plusieurs choses, les trésors de l'Évangile et ce qu'est l'Évangile en réalité. Alors à l'époque, les croyants n'avaient pas le texte tel que nous l'avons aujourd'hui, ils n'avaient pas l'Évangile rédigé dans son ensemble, accessible dans une Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, reliée. Et la manière d'approcher l'Évangile, de recevoir le message, c'est soit parce que quelqu'un venait pour prêcher, ce qui a été le cas pour Colosse, soit parce qu'il y avait aussi des lettres qui mettaient en exergue certains points, certaines vérités, certaines doctrines, des choses qu'il fallait retenir, les points essentiels du message de Jésus-Christ, de l'Évangile, de ce que c'était, et puis qui montraient comment mettre ça en pratique. Et donc c'est ça qu'on va voir dans cette lettre. On parle beaucoup donc de Jésus-Christ, je l'ai déjà dit, on reviendra dessus. C'est une lettre aussi qui encourage les croyants à progresser vers la maturité. Je disais, c'est une église jeune, une église de récents convertis, et le but de Paul, c'est de les conduire vers plus de maturité, de grandir dans l'Évangile, de grandir en Jésus-Christ. Et puis, c'est une lettre qui nous parle aussi de l'église. On verra qu'il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture, c'est qu'il y a un intérêt pour le collectif dans cette lettre. On parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont nommés, il y a beaucoup de vérités auxquelles on est appelé à approcher ensemble. Et ça, et on parle de l'Église en tant que corps. Et je trouve que c'est intéressant de voir en quoi nous, en tant que croyants, on peut recevoir quelque chose, évidemment, du texte biblique, mais qu'on est aussi amené à le vivre ensemble, et que c'est ensemble qu'on peut se conduire dans des vérités. Et c'est ce qu'expérimentent les Colossiens. C'est ensemble qu'ils vont approcher certaines vérités, c'est ensemble qu'ils vont pouvoir les mettre en pratique, parce que l'Église est importante aussi, c'est pas seulement leur relation personnelle, c'est aussi leur relation en tant que groupe de croyants avec Dieu. Et de là vient aussi l'idée que c'est important non pas seulement pour l'Église à Colosse au 1er siècle après Jésus-Christ, mais c'est un message important pour l'Église avec un grand E, et puis notre Église, nous, ici, à Antony, au XXIe siècle, aujourd'hui. Je présente un rappel sur ce que c'est qu'une épître, une lettre, tout simplement. Le mot épître vient du latin, hein, c'est le même mot que le mot lettre, la lettre aux Colossiens, et il y a des grandes ressemblances selon les lettres, hein, vous les connaissez. Il y a 21 épîtres et elles sont toutes un peu rédigées de la même manière. Il y a d'abord un expéditeur, quelqu'un qui écrit la lettre, qui se signale, qui s'identifie la plupart du temps. Bon, dans l'épître aux Hébreux, ce n'est pas le cas, par exemple, mais la plupart du temps, l'auteur s'identifie. Et puis, il dit à qui il écrit. Donc là, on écrit aux Colossiens. Il y a deux lettres aux Colossiens, puisque vous savez que l'épître à Philémon est aussi une lettre à quelqu'un qui vit à Colosse. Et donc, c'est une lettre qui aussi a été reçue à Colosse. On écrit aux Colossiens. Généralement, il y a des salutations. Alors, c'est sur le mode paix à vous, grâce à vous. On salue et on donne la paix, on invite la grâce sur ceux qui reçoivent. Éventuellement, des remerciements pour des raisons éventuelles. Parfois, il y a des échanges, il y a eu des échanges de lettres, des visites, etc. On remercie. Et puis, parfois aussi des prières à l'adresse de ceux qui reçoivent la lettre. Et puis, généralement, encore une fois, là, c'est à grands traits, hein, y a une partie qui est plutôt de la théorie, on va dire, avec un discours doctrinal. On présente des grandes idées sur l'Évangile, sur des vérités bibliques, des éléments fondamentaux, le solide, ce qu'il faut retenir, l'Évangile, dans sa partie doctrinale. Et ensuite, généralement, c'est mis en pratique. Donc on part de la première partie pour dire « Et donc, voilà maintenant comment vous allez mettre ça en pratique dans vos vies quotidiennes. Voilà ce qu'on attend de vous, puisque vous avez compris la première partie. Voilà ce que vous allez en faire pour vivre au quotidien. » Donc des conséquences logiques avec des applications dans la deuxième partie, généralement. Et puis à la fin, souvent, il y a quelques informations diverses. On rebondit sur un autre sujet. Parfois des salutations personnelles. Là, on verra que c'est le cas dans l'Épître aux Colossiens. Et puis, parfois, un détail particulier concernant le rédacteur. Par exemple, Paul qui attire l'attention sur sa situation personnelle, sur ses voyages, sur le fait qu'il est en prison, en l'occurrence, là, pour Colosse. Et puis, ça finit par des salutations finales, avec de nouveau des bénédictions. Et puis, un petit message final pour conclure. Donc, généralement, ça, c'est le plan. Et on verra que l'Épître aux Colossiens ne fait pas tellement exception. Donc là, vous l'aurez en détail, je suis désolé, c'est pas très visible, mais on va voir, ça c'est le plan que Joël a fait pour cette épître. Alors si vous cherchez d'autres plans, vous verrez qu'on peut y avoir quelques variations pour le découpage, hein, comme d'habitude, et ça ne suit pas exactement les chapitres, ça c'est classique, comme vous le savez, hein, les chapitres n'ont pas été faits par Paul, hein, c'est après qu'on a ajouté les versets, les chapitres, donc c'est pour ça que ça tombe pas pile poil, mais vous avez en gros une introduction avec salutation, action de grâce, prière, intercession pour les Colossiens, et puis ensuite une partie qu'on appelle ici partie doctrinale sur la personne et l'œuvre de Christ. Donc, comme on parle de l'Évangile, comme Paul veut présenter l'Évangile à cette jeune église, il insiste sur qui est Christ, sur sa personne, et on va voir à quel point ce texte est un texte éminemment christologique et un des grands textes christologiques de l'Évangile, du Nouveau Testament, où Paul va rentrer dans des grandes vérités, des affirmations très fortes sur qui est Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et ce que signifie sa personne et son œuvre pour l'Église, pour les croyants. Et c'est la raison, hein, de la rédaction de cette lettre, c'est d'apporter des choses sur Jésus-Christ et conduire les croyants de Colosse à connaître mieux Jésus-Christ et à grandir en maturité grâce à cette connaissance de Jésus-Christ. Et puis, s'ensuit une autre partie sur la plénitude du chrétien en Christ, comme Joël l'a noté ici, qui est un peu le cœur de la lettre sur la manière dont on marche avec Christ. Comment mettre ça en pratique, comment marcher avec Jésus-Christ dans la vie des Colossiens et comment pour nous marcher avec Jésus-Christ. Et Paul s'interroge aussi sur ce qui pourrait empêcher cette marche. Et ça, c'est ce qui apparaît très clairement dans cette deuxième partie, c'est qu'il y a des empêchements éventuels, des choses qui nuisent à la bonne vie chrétienne des Colossiens. Et donc, Paul va s'intéresser à ces différentes objections, ces différentes entraves dans la vie des croyants. Il parle des faux raisonnements, ne pas être séduit, mais être enraciné en Christ. Il parle de la philosophie humaine, alors on verra exactement ce que ça veut dire, je viens dans un instant. Ne pas devenir une proie de cette philosophie, même si elle n'est pas très bien définie pour l'instant, et voir notre plénitude en Christ. Il s'adresse aussi à ceux qui pourraient être tentés par une sorte de légalisme ou de ritualisme inspiré de la religion juive. Ne pas se laisser prendre dans ces raisonnements, mais au contraire, prendre conscience de la réalité de ce que signifie l'œuvre de Jésus-Christ et de la liberté qu'elle nous donne. Et puis aussi une objection contre ce qui pourrait être considéré comme du mysticisme païen, une sorte de syncrétisme aussi, je vais expliquer dans un instant. Et de la même manière, Paul dit « Tenez ferme en Jésus-Christ ». Donc voilà, il s'intéresse à ce qui pourrait entraver la vie des croyants. Et puis il enchaîne sur une partie très pratique, là encore, sur la vie en Christ, avec des applications très concrètes, à la fois pour le foyer, pour la maison, pour la vie des Colossiens chez eux, et puis vis-à-vis du monde, vis-à-vis du monde qui les entoure, vis-à-vis du monde dans lequel ils sont. Et donc là, il y a de nouveau des invitations à prendre appui sur Jésus-Christ pour notre vie quotidienne, à la fois donc une vie dans le privé, on va dire, et puis une vie par rapport à la société, par rapport au monde qui nous entoure. Et puis, il finit par des salutations qui attirent l'attention sur, il me semble, sur le caractère très concret de cette lettre, le fait qu'elle n'est pas écrite de nulle part, puisque Paul cite un certain nombre de personnes, des gens qui sont connus, des gens qui ont visité les Colossiens ou qui vont les visiter, des gens qui sont venus voir Paul aussi de la part des Colossiens. On voit que c'est vraiment ancré dans le réel, dans une vie qui est celle de Paul, et qui a une attention aux personnes, et que ce n'est pas simplement voilà, des grandes doctrines comme ça qu'on énoncerait de manière... éthéré. Non, il y a vraiment des gens qui sont là, qu'on a rencontrés. C'est aussi, on voit la vie de l'Église de manière très très concrète et très très belle, il me semble, puisque voilà, on a un aperçu de ce que c'est qu'une assemblée à l'époque et des voilà, des réalités qui sont les leurs. Alors je disais tout à l'heure, Colosse, c'est une jeune Église. Et aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de la ville de Colosse. Je crois qu'il n'y a pas eu de fouilles à cet endroit. Donc on sait à peu près l'endroit où c'était. On sait même assez bien. Mais c'est une ville qui, aujourd'hui, voilà, à part un terrain vague, on n'y voit rien. Ce n'est pas ma photo, hein, je l'ai trouvée ailleurs. Donc pour simplement resituer, Colosse, c'est aujourd'hui dans ce qui est devenu la Turquie actuelle, ce qui s'appelait l'Asie mineure à l'époque. Colosse était sur un fleuve qui s'appelle le Lucos ou Lucus, c'est un affluent du Méandre qui se jette ensuite dans la Méditerranée, et on a cette ville qui a été à une époque, semble-t-il, une ville assez importante. Mais parce qu'il y a eu le développement d'autres villes qui sont l'Odyssée, qu'on connaît bien aussi, parce qu'il y a aussi des références à l'Odyssée, une sorte de petite épître à l'Odyssée, par exemple, dans l'Apocalypse, il y a la mention de l'Odyssée, il y a aussi Hiérapolis qui s'est développée à côté, et parce qu'il y a eu ces deux villes non loin, il semblerait que Colosse soit devenue une ville beaucoup moins importante, et qui a été une ville en retrait à l'époque où Paul écrit aux Colossiens. Donc les grandes villes, c'est plutôt l'Odyssée et Hiérapolis. Il ne reste pas moins que ça a été une ville qui a été signalée à cause de l'industrie de la laine, par exemple. Il semblerait qu'il y ait des pâturages assez fertiles, peut-être que c'est ce qu'il en reste hein, autour. Et puis il y a eu de la teinture avec des dépôts de craie dans les environs. Donc la teinture à l'époque, c'était un commerce assez florissant, ça permettait de rapporter pas mal d'argent, on va dire. Donc c'est une ville qui a été importante. Et la particularité, c'est que ce n'est pas Paul qui a fondé cette église. Paul n'est jamais allé à Colosse. Il le dit à plusieurs reprises. On le trouve aussi dans l'épître. Hein, il dit qu'il n'a jamais rendu visite aux Colossiens, mais c'est Épaphras qui a implanté l'église et qui a fait le lien avec Paul. Voilà, il le dit hein, au chapitre 1. Cet évangile, vous l'avez appris d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon d'esclavage, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous. Et puis, plus loin, il parle à nouveau d'Épaphras, qui est dans un grand travail de cœur pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Donc ces grandes villes aussi qui, visiblement, ont été visitées par Épaphras, et où il y a des rassemblements qui ont été créés, et une église voilà, naissante dans cette région. Dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de trace de voyage dans cette région pour Paul. Ce n'est pas un endroit où il est allé. Mais par contre, il a à cœur voilà, de prier et d'intercéder pour vous, donc les Colossiens, et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Donc Paul, même s'il n'est jamais allé dans ces endroits, prie pour eux et a à cœur la croissance de cette église. C'est pour ça qu'il écrit aux Colossiens. Quand est-ce que cette lettre a été écrite? Visiblement pendant le troisième voyage de Paul, pendant qu'il est à Éphèse et pendant qu'il est emprisonné à Éphèse. Alors là, on peut avoir tout un tas de théories sur l'endroit où il est emprisonné. Certains diront c'est à Rome, d'autres disent c'est à Éphèse. Il me semble qu'il y a de bons arguments pour dire que c'était à Éphèse à cause des voyages et des visites des différentes personnes. Il semblerait probable qu'il était emprisonné non loin. En particulier, si on prend comme exemple le voyage et la fuite d'Onésime, donc l'écriture de l'épître à Philémon, c'est quand même assez peu probable que c'est un esclave en fuite voyage jusqu'à Rome pour aller voir Paul. Parce que, un esclave en fuite, s'il est attrapé, vous savez, voilà, c'est un gros ennui pour lui. Hein, et. On peut s'imaginer que s'il a eu le temps de faire le voyage, qu'il puisse revenir, qu'il y a aussi ses allers-retours avec Épaphras, Paul a été emprisonné pas loin. J'ai mis quelques versets sur où il mentionne le fait qu'il était à Éphèse à cette époque-là et qu'il a eu des voyages autour de lui en Asie et que c'est là que l'évangile, c'est à ce moment-là que l'évangile s'est répandu dans la région. C'est aussi intéressant peut-être de voir qu'il y a des points communs avec la deuxième épître aux Corinthiens qu'on a lue il n'y a pas longtemps, parce que 2 Corinthiens, comme vous en souvenez, a été écrite après le départ d'Éphèse, et s'il venait d'écrire Colossiens, on peut voir pourquoi il y a des points communs entre les deux, puisqu'il était préoccupé par les mêmes idées, et donc on peut voir les points communs entre les deux lettres. Et puis je disais donc des croyants récemment convertis, dont cependant Paul est satisfait, c'est-à-dire qu'il dit des choses plutôt positives sur eux. Il les appelle saints et fidèles dans les salutations, saints et fidèles, le mot fidèle est important, frères en Christ qui sont à Colosse. Il me semble qu'à part Éphésiens, on ne mentionne pas la fidélité tant que ça, puisque vous savez, dans chaque lettre, il y a eu des gros soucis, l'Église est souvent reprise par Paul, encouragée, mais reprise aussi. Et là, il semblerait y avoir quand même une satisfaction de Paul face à la marche de ses croyants. Il parle aussi du fait qu'il a entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus, de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance. Il dit aussi plus loin au chapitre 2 « Je me réjouis de votre bon ordre et de la fermeté de votre foi en Christ. » Le bon ordre, la fermeté de l'Église à ce moment-là. Et puis, quand il dit, il parle des problèmes peut-être doctrinaux ou de marche, il dit « Vous avez aussi autrefois marché parmi eux. » Donc il semblerait bien que la rupture a été franche et qu'on parle bien de, voilà, autrefois, il y a bien eu un changement. Et donc ce n'est plus le cas aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette marche tordue, on va dire. Et ils sont fidèles au contraire, ils sont dans le bon ordre. Donc ça c'est quelque chose de positif qui est souligné à plusieurs reprises par Paul. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait un problème quand même quelque part dans la marche des croyants de Colosse. Et on va s'y attarder en particulier quand on lira le chapitre 2, qui est un peu un chapitre de combat, on va dire, où Paul va pointer du doigt un certain nombre de désordres ou de doctrines qui ne vont pas droit, et qui ne sont pas orthodoxes. Alors, c'est difficile exactement de dire ce qui n'allait pas. J'ai déjà mentionné plusieurs éléments. Et il semblerait qu'il y ait un peu de tout ça dans ce sur quoi Paul attire l'attention des croyants à Colosse. Tout d'abord, le problème du syncrétisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le syncrétisme? C'est d'essayer d'associer différentes croyances, différentes doctrines de différentes provenances, et on les ajoute à la foi chrétienne. On mélange tout ça, et puis on se dit, bah, ça va bien. Par exemple, le culte des ancêtres, ou le culte de certaines divinités extérieures, hein, qui sont voilà, des divinités du Proche-Orient ancien, par exemple, des divinités grecques. Et puis, on mélange avec Jésus-Christ, on ajoute Jésus-Christ dans le panthéon de tous ces dieux de l'Antiquité. Puis on se dit, voilà, on va faire ce mélange, et puis ça nous convient. On retient ce qui est bon, on exclut ce qui est mal, et puis on se fait notre petite religion. Sachant qu'il y avait aussi l'influence de religions à mystère. Les religions à mystère, elles étaient très populaires dans l'ancien, dans le Proche-Orient ancien, dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on pensait voilà, qu'il fallait être initié, et puis petit à petit, à fur et à mesure des initiations, on allait rentrer dans le mystère, et c'est-à-dire qu'on allait nous révéler des secrets, on allait nous révéler des choses qui n'étaient pas connues du grand public, et puis voilà, on va attirer notre attention, on va nous révéler des choses que les autres ne savent pas, sur Dieu, sur le monde, etc. Ça nous rappelle peut-être aussi certaines pratiques d'aujourd'hui où voilà, y aurait des gens qui sauraient des choses, et puis bah, si vous regardez sur YouTube, alors vous savez tout, mais ceux qui n'ont pas regardé la bonne vidéo ne savent pas. On a un peu ces religions à mystère aussi, on n'appelle pas ça pareil aujourd'hui, hein, mais c'est voilà, du complotisme ou des choses comme ça, mais il y a des points communs. Il y a ceux qui savent, puis ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent, évidemment, sont plus spirituels, sont plus éclairés. Voilà, Paul va dénoncer tout ça en disant non, la foi chrétienne, ce n'est pas une religion à mystère. Et c'est intéressant parce qu'il utilise des termes comme le mot mystère. Il est utilisé par Paul, mais Paul va le retourner et dire non, le mystère, il est révélé. Le mystère de l'Église, c'est un mystère lumineux, c'est un mystère connu. Et il n'y a pas besoin de faire des secrets. L'Évangile, c'est la lumière, c'est publié, c'est ouvert, et on n'est pas là pour faire une caste qui sait par rapport à ceux qui ne sauraient pas. Au contraire, tout le monde peut avoir accès à Dieu. Et puis, il y a d'autres éléments.
Ce que tu appelles religion à mystère, c'est le prégnosticisme.
Il y a des liens, il y a dans le syncrétisme et dans le prégnosticisme, oui. Alors, je n'ai pas appelé ça gnosticisme parce que c'est un peu tôt. Le gnosticisme à l'époque n'existait pas, les gnostiques n'étaient pas encore aussi populaires que par la suite dans l'Antiquité, mais il y a déjà, oui en effet, des choses qui sont dans le gnosticisme. Alors c'est pas tellement le mystère dans le gnosticisme, mais c'est aussi, enfin il y a ça, mais dans le gnosticisme il y a aussi toute l'attitude par rapport au corps, par rapport à la création matérielle. Les gnostiques sont venus à dire que puisque Dieu était immatériel, absolument pur, absolument saint, alors il ne pouvait pas avoir créé le monde et il ne pouvait pas avoir créé la matière. Dieu étant esprit, il n'aurait pas eu affaire avec le monde créé. Donc ça, c'est le gnosticisme. Partant de là, Dieu ne pouvait pas s'incarner non plus. Et donc les gnostiques niaient l'incarnation, niaient l'humanité de Jésus et se concentraient sur le côté spirituel. Et donc pour eux, il ne pouvait pas y avoir de foi chrétienne. Et pour eux, le monde aurait été créé par de sortes d'émanations de Dieu, ce qu'ils appelaient les éons. Alors il y a toute une hiérarchie avec toutes ces éons, et Jésus-Christ aurait été un éon parmi d'autres. C'est pas les néons qui clignotent. Mais en tout cas, les gnostiques niaient la divinité de Jésus-Christ et niaient le lien entre un Dieu parfait, enfin Jésus-Christ parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il ne pouvait pas, selon eux, y avoir de lien. Et ça, on voit que Paul s'y intéresse aussi, puisqu'il va parler de la création. Il va parler de l'œuvre de Jésus-Christ dans toute cette création. Et ça, il le fait dès le premier chapitre. Et donc, il s'adresse aussi à ces croyants qui pourraient être tentés par des dérives comme ça, gnostiques. On voit qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir encore des gens qui nient cette vérité de Dieu incarné, de Jésus-Christ à la fois parfaitement Dieu, parfaitement homme. Alors, tout un tas de sectes hein, qui refusent cela. On est un peu plus discrète aujourd'hui, mais les témoins de Jéhovah, enfin, si on veut discrète, mais ont du mal avec cette idée. Mais il y a tout un tas d'autres sectes qui sont positionnées entre le syncrétisme et le prégnosticisme ou le gnosticisme, la théosophie, le New Age, la science chrétienne. Bon, ouais, Il y a plus ou moins parfois un lien avec l'évangile. Vous pourrez se dire, tiens, c'est intéressant, mais en fait, si on regarde bien, on voit que c'est complètement vicié au niveau de ce que Paul dénonçait déjà au 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis le dernier point, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les lettres de Paul, c'est le problème du légalisme et du côté judaïsant de certains croyants, jeunes en particulier, mais pas seulement, qui verseraient dans l'évangile plus quelque chose. À l'époque, toute la question qui se posait, c'était est-ce qu'on peut être directement chrétien si on vient du paganisme? Et certains disaient, c'est bien, les païens se sont convertis à Christ, mais maintenant, il faut qu'ils deviennent juifs aussi. On ne peut pas être seulement chrétien, il faut aussi être juif. Et on voit que c'est quelque chose qui est récurrent hein, dans les épîtres. Il y a cette dénonciation du fait que voilà, Christ suffirait et qu'il faudrait en plus obéir à la loi juive. Et ce que Paul dit, c'est que non, le judaïsme n'a rien à offrir de plus que l'Église suffit. L'Église a déjà vécu son propre exode, c'est ce que Paul dit au début de cette lettre, et l'Église est déjà dans la terre promise. Il n'y a pas à attendre et à revivre tout ce qu'Israël a vécu. Notre espérance n'est pas là, elle n'est pas dans une expérience qui nous referait vivre l'histoire du peuple d'Israël, mais elle est vraiment dans l'Église qui elle est déjà, et c'est le but de la lettre aux Colossiens, de nous dire on est déjà dans la terre promise, on est déjà auprès de Christ dans le ciel. L'Église est déjà dans les temps à venir qui sont encore attendus par les Juifs. Et Paul va dénoncer tous ceux qui voudraient soumettre les croyants à des lois, à une obéissance à certaines règles, manger certaines choses, ne pas manger d'autres, respecter certains jours, ne pas respecter d'autres. Et ça, c'est quelque chose que Paul aussi mentionne ici. Alors après, il y a d'autres détails qui sont un peu compliqués à associer avec l'une de ces catégories, que ce soit syncrétisme, prégnosticisme, légalisme judaïsant. Par exemple, quand on parle du culte qui sont rendus aux anges, on a du mal à raccrocher exactement avec voilà, l'une de ces catégories. Il semblerait que voilà, tout ça a été bien mélangé à Colosse et que Paul voilà, veut mettre en garde les croyants contre ces dérives ou ces potentielles dérives. Et encore une fois, Paul dit aussi que l'Église à Colosse est fidèle. Hein. Il les appelle fidèles, ils disent qu'ils sont en bon ordre. Donc, c'est pas comme l'Épître aux Galates, où visiblement, on avait bien dérivé quand même en Galatie. Mais là, les Colossiens, visiblement, sont encore bien accrochés. Mais Paul veut les encourager à grandir encore en maturité. Et cette maturité, elle se résume par « n'ajouter rien à Christ ». Si on voulait résumer tout le message et toute la réponse que Paul fait face à ces dérives, il ne va pas rentrer dans les détails, il ne fait pas un combat avec chacune des doctrines étrangères en disant « ça, c'est pas bien parce que, ça, c'est pas bien parce que ». Non, il fait une réponse globale, il dit « il y a tout ça, il y a toutes ces dérives potentielles, la réponse c'est Christ, n'ajoutez rien à Christ. Si vous voulez être dans la vérité, retournez à Christ. Christ est au-dessus de tout, en Christ nous avons tout, il n'y a rien à ajouter. » Et ça, c'est la réponse et le résumé, on va dire, de ce que Paul veut que les Colossiens apprennent et ce dont il veut que les Colossiens se nourrissent. Christ est rien que Jésus-Christ. Alors, on pourra faire des parallèles aussi tout au long de notre étude avec ce que Paul disait à peu près au même moment à d'autres églises. Et si vous relisez Colossiens, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs, en particulier avec l'épître aux Éphésiens. Alors je reprends un tableau qui avait été donné à format Bible par Édouard Laribaud, où il avait mis très clairement en parallèle les versets qui se ressemblent. Et on voit en effet des formulations qui sont quasiment les mêmes dans les deux épîtres. Et c'est normal parce que le message fondamental, ça, c'est le message de l'Évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Mais on voit qu'il y a aussi des différences et on pourra s'intéresser à pourquoi il y a des différences, parce qu'il y a des contextes différents, des influences différentes aussi sur ces deux églises. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous pourrez, si vous voulez, je vous enverrai ce tableau qui avait été distribué par Édouard Laribaud. Je trouvais que c'était intéressant, où il montre voilà,
Par exemple, l'expression « mort dans nos fautes », il nous a vivifiés avec le Christ, ressuscité ensemble. Bon, et on trouve exactement les mêmes expressions dans Éphésiens, mais là où les Colossiens, on s'arrête là, on voit que les Éphésiens, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le Christ. Bon, c'est ce que Paul ne dit pas aux Colossiens. Christ est en nous, sur la terre, devant les hommes, nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes, devant Dieu. On voit que la perspective est différente. Les Colossiens, il y a « ayez le regard vers le ciel pour votre vie sur terre », et puis chez les Éphésiens, on va attirer l'attention sur une autre réalité, parce que c'est certainement ce dont l'Église avait besoin à ce moment-là. Voilà, il y a comme ça des différences, et c'est vrai que, par exemple, à propos de l'Église, je disais tout à l'heure, c'est éminemment important aussi pour Paul d'attirer l'attention sur ce collectif. Dans le Colossien, on met l'accent sur la tête, Christ est à la tête de l'Église, il est le chef du corps, alors que dans les Éphésiens, on dit l'assemblée et le corps de Christ, et l'accent est mis non pas sur la tête, mais sur le corps. Bon, voilà, on pourra essayer de noter quelques différences, mais on voit qu'il y a des ressemblances aussi. Il y a des ressemblances évidemment avec l'épître à Philémon, puisque c'est aussi, je disais tout à l'heure, écrit à un Colossien. Philémon était à Colosse, et donc c'est une situation particulière, d'une autre lettre envoyée un peu à part, mais qui s'adresse aussi à quelqu'un qui est à Colosse, et un petit peu de ressemblance, mais je trouve un peu moins quand même, avec les Philippiens. Mais sur le côté christologique, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en parallèle de ce qui est dit dans l'épître aux Philippiens. Donc beaucoup de points communs. Je parlais aussi tout à l'heure de 2 Corinthiens, écrites entre Éphèse et Corinthe, et là aussi il y a des ressemblances avec ce que Paul a écrit aux Colossiens. Ça pour dire que, malgré les différences, ou parce qu'il y a, ouais, il y a des différences, c'est pas malgré, il y a des différences, c'est pas les mêmes destinataires, mais on voit que le message de Paul forme un tout, et on a la richesse, nous, d'avoir toutes ces lettres mises ensemble pour pouvoir construire des doctrines sur Christ, pour pouvoir en comprendre quelque chose de complet, et on voit que Paul a une grande cohérence aussi dans ses écrits. Et on pourra mettre en parallèle comme ça les différents messages pour comprendre tout ce que Paul a pu ajouter, a pu apporter sur la connaissance de Christ. Alors les grands thèmes, c'est une lettre qui est fondamentalement christologique. Dieu a fait ce que la loi, ce que la sagesse ne pouvait pas envisager. Dieu a envoyé son Fils unique pour réconcilier. On verra que le thème de la réconciliation est important ici aussi. Il a réglé le péché sur la croix pour donner la vie à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et Dieu a donné le pardon pour le passé, il donne la maturité pour le présent et il donne aussi un espoir pour l'avenir. Et tout cela, ce que Dieu donne pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, c'est en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui va nous occuper dans notre étude de l'Épître aux Colossiens. Et puis, je disais, c'est un texte, un message pour l'Église, et ça nous permettra aussi de comprendre l'importance de l'Église, de l'Assemblée, de ce qu'elle signifie pour nous. Nous ne sommes pas des croyants isolés, et Dieu a voulu nous rassembler, nous conduire et construire son Église, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'Épître aux Colossiens, et j'espère qu'on pourra se nourrir de ça pour aussi renforcer notre sens de ce que c'est que l'Assemblée et pourquoi nous sommes ici ensemble et qu'est-ce que nous avons à vivre ensemble. C'est un encouragement à fréquenter l'Église parce que c'est dans le collectif que les idées fausses sont combattues et que les bonnes sont défendues. Et c'est ensemble qu'on arrive à construire quelque chose qui nous conduit dans l'orthodoxie et à mettre en pratique donc de manière droite ce que nous avons compris ensemble. Ce que dit aussi l'Épître aux Colossiens, c'est que l'Église est déjà assise dans les lieux célestes. Et ça, c'est une affirmation qui est fondamentale, parce qu'elle nous garde de l'immaturité spirituelle. Elle nous garde de la recherche de nouveautés spirituelles, dans le sens inventer quelque chose qui ne soit pas conforme à l'Évangile. Elle nous garde aussi de l'anxiété, elle nous garde des peurs de ne pas être à la hauteur. Elle nous garde aussi de la fierté qu'on pourrait avoir à faire des efforts pour approcher de Dieu. Tout ça, c'est impossible. Et tout ça, on en est gardé parce qu'il y a cette affirmation que l'Église est déjà assise dans les lieux célestes. Il n'y a rien de nouveau à faire, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à trouver de nos propres forces, parce que tout est déjà fait et c'est une position qui est déjà acquise. Et donc, ce qui nous menacerait aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, les efforts, le mélange, les choses... voilà, quand je dis les nouveautés spirituelles, ce serait le syncrétisme, des choses comme ça, ou l'idée d'une nouvelle religion, un mystère. On en est gardé, aujourd'hui comme à l'époque, parce que nous sommes déjà, en tant qu'Église, assis dans les lieux célestes. Et donc, il n'y a rien d'autre à ajouter, et c'est une grande paix pour nous que de savoir que, voilà, c'est fait. Et ça, on va le voir aussi dans l'épître aux Colossiens. J'ai relevé quelques autres thèmes, et je propose de lire quelques versets pour balayer ces quelques thèmes et voir ce que disent ces textes par rapport à l'Évangile et par rapport à Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites dès le premier chapitre. Et c'est, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, je disais tout à l'heure, il y a une partie doctrine et puis une partie mise en pratique. Mais en réalité, pour Paul, puisque tout est relié à Jésus-Christ, alors toute la doctrine, mais aussi toute la pratique, finalement, est entremêlée et tout se rapporte à Jésus-Christ et on ne peut pas se séparer pleinement et complètement, et heureusement, les deux parties de l'Épître. Alors le premier thème, hein, j'ai noté, Jésus-Christ domine sur toute la création, il est le Seigneur de tous les dirigeants humains et des puissances cosmiques. Et c'est quelque chose qui est dit dès le premier chapitre, hein. Il est l'image, je lis les premiers versets que j'ai identifiés ici, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il tienne, lui, la première place. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui, à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. » On va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à creuser dans ces versets. Et je disais tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que voilà, on va pouvoir lire quelques versets comme ça pour s'imprégner aussi du contenu de l'Épître aux Colossiens. Deuxième chapitre, juste deux versets, les versets 9 et 10. « En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, et vous êtes accomplis en lui qui est le chef de toute principauté et autorité. » Je ne continue pas, mais voilà. « En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Dieu a pris un corps et toute la plénitude de Dieu dans Jésus-Christ. » Au chapitre 3, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » C'est lui qui domine sur toute chose, c'est lui qui a créé toute chose, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui domine sur la terre et dans le ciel. Et puis, Dieu a agi en Christ pour assurer la rédemption et la réconciliation de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Donc on a vu sa puissance, sa domination, et on voit que Dieu nous a délivrés, c'est le verset 13 hein, du premier chapitre, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est fait. Nous sommes d'ores et déjà dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et puis, voilà, les versets aussi que j'ai lus juste avant qui disent la même chose hein, sur le fait que voilà, Jésus-Christ est le Fils de son amour et qu'il est voilà, l'image du Dieu invisible et qu'il nous a réconciliés avec Dieu, nous a réconciliés avec le Père. Et puis une affirmation sur le fait que les croyants sont en Christ et donc, ils participent à la mort, à la résurrection, et déjà à la nouvelle vie, à la plénitude du Christ. Alors, j'ai choisi deux extraits. Hein. Donc, au chapitre 2, je continuerai donc la lecture de ce que je viens de commencer. C'est difficile de découper par thème, hein. Tout est imbriqué, mais voilà, j'ai déjà lu les versets 9 et 10. Et donc, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez été ressuscités ensemble par la foi, en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. La mort et la résurrection avec Jésus-Christ. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix. C'est fait, c'est accompli. La croix est centrale, encore une fois, dans cette vie à laquelle nous participons, la vie de Jésus-Christ. Et puis, si je continue les versets que j'ai lus au chapitre 3, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. » La vie de Jésus-Christ aujourd'hui, ce qui attend Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ va faire, c'est ce que nous allons faire aussi. Nous sommes associés pleinement à ce que Jésus-Christ est aujourd'hui. Et puis, le Christ a vaincu les puissances des ténèbres sur la croix, et les chrétiens partagent son pouvoir, son autorité sur le royaume. Donc, voilà, on retourne sur les mêmes thèmes, les mêmes versets que j'ai lus. Mais voilà, encore une affirmation importante. Christ a vaincu, c'est fait, les puissances des ténèbres sur la croix, et aujourd'hui, nous partageons le pouvoir, l'autorité de Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement de l'attente juive. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour Paul, je vous disais, hein, parce qu'il y avait cette question, est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'on peut croire à Jésus-Christ et ça suffit? Ou est-ce qu'il faut devenir juif? Est-ce qu'il faut se mettre dans des pratiques qui sont des pratiques légalistes? Eh bien non, parce que Jésus est ce que les juifs attendaient. Et les chrétiens participent à l'héritage du peuple de Dieu. Nous avons les promesses qui ont été faites de toute éternité, elles sont pour nous. Nous pouvons recevoir ces promesses de l'ancienne alliance parce que nous sommes unis avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de ce qui était attendu de toute éternité. Et de là découle que les croyants sont appelés à croître en maturité spirituelle, en se débarrassant des pratiques pécheresses et en développant les vertus chrétiennes, celles qui sont associées à Jésus-Christ, à sa vie. Je lirai les quelques versets donc, du début du chapitre 3, mais je vous ai mis toute la, voilà, 3.1 à 4.6. Bon, je ne vais pas tout lire, ça prendrait du temps, mais toute la fin, évidemment, est tournée vers cette pratique et ce fait de grandir en Jésus-Christ et de pratiquer les vertus chrétiennes, c'est-à-dire ce qui est associé au caractère de Christ. Vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Et Paul continue à partir du verset 5, « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. » Et il liste tout un tas de choses qui pourraient caractériser des gens qui sont déroutés. Mais il dit « Vous avez marché là-dedans autrefois. » Ce n'est plus ce qui nous caractérise. C'était avant ça. Et on vivait dans toutes ces choses. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses. Colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez pas, etc. Et Paul dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant les uns aux autres. Et tout ça, c'est possible, non pas parce que nous allons faire des efforts et violemment nous mortifier avec des pratiques qui seraient de l'ordre du légalisme, non, c'est possible parce que nous sommes en Christ et que c'est le caractère de Christ. Et donc parce que nous sommes, et c'est ce que Paul affirme, déjà en Christ et que Christ vit ça, alors nous aussi, c'est mis à notre portée de le vivre. Et ce n'est pas par nos propres efforts, à la sueur d'un effort constant qui serait difficile, qui serait rigoureux et qui nous ferait pâlir parce que force serait de constater que nous n'y arrivons pas. Et ça a été le constat de l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons pas par nos propres efforts vivre ces choses. Mais parce que nous sommes en Christ, alors tout est possible, alors nous sommes dans cette dynamique et nous allons pouvoir retirer un encouragement et non pas une humiliation de ces versets que nous lirons dans les chapitres 3 et 4. Alors pourquoi la lire aujourd'hui, cette épître? Parce que elle pose beaucoup de questions qui sont celles de nos contemporains, parce qu'elle pose des questions qui reviennent aussi dans l'histoire de l'Église et qui reviennent certainement dans nos cœurs. Elle pose la question des origines. Et on sait que c'est une question qui revient beaucoup pour ceux qui s'inquiètent voilà, de là d'où nous venons. D'où vient l'homme, d'où vient... comment est-ce possible tout ceci? L'épître aux Colossiens nous propose une réponse. J'ai lu ces versets, elle nous parle de Jésus-Christ comme le Créateur. Par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Et ça, ça nous encourage, ça donne un sens aussi à l'humanité, à ce que nous sommes, face à un monde qui est forcément perdu face à ces questions, puisque nous ne pouvons pas répondre avec certitude, par d'autres moyens que celui de la foi, à la question des origines. Et donc, relisons cette épître pour nous nourrir aussi de ce que l'Esprit-Saint a bien voulu donner par Paul. Elle nous délivre aussi, elle nous encourage, elle nous rappelle de faire attention aux dérives qui seraient celles, par exemple, du syncrétisme. Aujourd'hui, on sait que c'est facile et c'est peut-être tentant de vouloir mélanger. Parce que affirmer que nous avons trouvé la vérité en Jésus-Christ, ça peut être gênant face à toutes les autres vérités alternatives, un mot qui est bien à la mode aujourd'hui. On peut se dire, mais est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'on ose le dire? Est-ce que finalement le mélange ne serait pas plus généreux et plus humaniste? Alors certainement humaniste, mais voilà, plus vrai. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer de prendre ce qui est bon dans toutes les religions et arrêter avec l'affirmation que la foi en Jésus-Christ est la vraie foi? Eh bien, voilà, l'Épître aux Colossiens nous encourage à ne pas mélanger. Paul a encouragé les chrétiens à l'époque et nous encourage encore aujourd'hui à rester accrochés, non pas à une religion, non pas à une église particulière, mais à l'église, parce que créée par l'homme, mais à l'église de Jésus-Christ, et à rester accrochés surtout à la tête qui est Jésus-Christ, et à certes retirer ce qui est bon de la foi chrétienne par rapport en nous encourageant les uns les autres et en recevant beaucoup d'encouragement et de vérité aussi de nos frères et sœurs chrétiens. Mais c'est un encouragement à rester accroché à Jésus-Christ, qui est le seul vrai chef de la seule vraie Église, son propre corps. C'est lui qui est le tout suffisant sauveur, la source de l'unité, qui est l'unité véritable. Et donc on est dans une épître qui est absolue, et elle combat le relativisme. On parle bien de l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, celui en qui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Et ça, c'est... Dans un monde où on veut relativiser, alors on voit que c'est une épître qui ne relativise pas du tout et qui nous parle bien d'absolu. Tout, c'est un mot qui revient énormément dans cette épître. On nous parle de toute la création et le mot toute chose, c'est quelque chose qui revient très souvent sous la plume de Paul. Et puis, c'est une épître à lire aujourd'hui parce qu'elle nous parle de l'œuvre de réconciliation. Et on sait qu'on vit aussi dans un monde, aujourd'hui comme toujours, qui est un monde de relations frustrées. On sait que, toujours, parce que c'est notre expérience humaine, les relations humaines ont été compliquées. Il y a des déceptions, il y a des frustrations, il y a des tensions, il y a de l'hostilité, toutes sortes de choses qui sont listées dans cette épître. Et Paul nous invite à nous tourner vers Christ, qui est la source du vrai amour. Parce que comme créateur, c'est lui qui a établi des rôles pour chacun et chacune. C'est lui qui a construit les familles, c'est lui qui construit les relations dans l'intimité, c'est lui qui fait les mariages, c'est lui qui fait les amitiés, c'est lui qui fait le lien dans l'Église des frères et sœurs. Et parce qu'il a fait cette œuvre de réconciliation suprême entre nous et le Père, alors il nous invite aussi à nous réconcilier et à vivre de manière positive dans nos relations à la fois intimes du foyer, mais aussi peut-être dans l'Église et la société, certainement. Et ça, c'est quelque chose qui est un message qui a un sens aujourd'hui comme à l'époque. Et puis, c'est important de lire cette épître aujourd'hui parce qu'elle nous donne une perspective éternelle. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifesté avec lui en gloire. L'homme
l'humanité a toujours aussi, on a dit, pose les questions des origines et pose aussi la question de la fin des temps. Se dire, finalement, qu'est-ce qui se passe après la mort ? C'est toujours été une question, c'est la question fondamentale de la philosophie. Qu'est-ce que l'être ? Et donc, où est-ce qu'il va ? D'où il vient, où est-ce qu'il va ? Est-ce que on s'en arrête à une perspective humaniste, une perspective qui serait celle d'une fin totale après la mort, ou est-ce qu'on a un espoir, quelque chose au-delà ? Eh bien, la réponse de l'Épître aux Colossiens, c'est cette perspective éternelle qui nous donne une perspective sur la fin, qui nous montre un peu la fin, et qui nous donne l'espoir d'un roi qui revient, un roi qui vient nous chercher. Et toute l'histoire tourne autour de ce roi, tourne autour de Jésus-Christ. Et donc, dans un âge où les philosophies, les vérités alternatives, l'incertitude règne, Jésus-Christ est présenté comme le sauveur suffisant. Et lorsque nous connaissons cela, alors nous connaissons le message de l'Épître aux Colossiens.